Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue. Ça y est, nous sommes ensemble pour deux heures d'infos avec vous. Et à la une, un document RTL notamment. Hier matin, un prêtre a été lardé de coups de couteau dans son église à Nice. Sœur Marie-Claude s'est interposée. Cette paroissienne a voulu maîtriser l'agresseur, un homme visiblement déséquilibré. Elle a été blessée. Elle raconte ce soir cette agression. Témoignage dès le début de votre journal sur RTL, largement consacré, bien entendu, à ce lendemain de réélection. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Avec ses consultations d'Emmanuel Macron, discussion notamment avec deux anciens présidents de la République. Pour Marine Le Pen, réunion des dirigeants du Rassemblement National pour discuter législative, ce fameux troisième tour. Les électeurs en font-ils aujourd'hui un enjeu? Réponse dans les rues de Trappes, en Ile-de-France.
Dans un quart d'heure, 18h15, on va se projeter sur ce quinquennat à venir, sur les législatives avec le ministre de l'Éducation, notre invité Jean-Michel Blanquer.
Et dans ce journal aussi, le début d'un procès qui va durer 8 semaines entre expertise technique et douleur des victimes et de leurs proches. Le procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge s'est ouvert cet après-midi. Et puis l'incertitude, Julien Alaphilippe, sur le prochain Tour de France. Le champion du monde français blessé hier dans une chute sur Liège-Bastogne-Liège. Les courses, enfin, le Quintet Plus à Bordeaux-le-Bouscat. Il fallait jouer le 9, le 6, le 14, le 11 et le 4.
À 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signé à la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
On va défaire les résultats de l'élection.
Absolument, large victoire au président mal élu. On vous expliquera ce que disent vraiment les chiffres. Et puis vous retrouverez également le feuilleton le plus passionnant de la présidentielle, Céline en immersion, ce soir à Abancourt dans l'Oise, avec des briques, un bar et beaucoup de votes pour Marine Le Pen.
À 19h15, on va refaire le monde, refaire les résultats avec Éric Brunet, ses polémistes, et puis des points météo qui mettent tout le monde d'accord tout au long de l'émission avec Louis Baudin. Bonsoir Louis.
Bonsoir Julien.
La tendance pour demain?
Eh bien ça va aller de mieux en mieux, donc ça veut dire plus de soleil et moins d'averses, ça va se faire progressivement.
On achète, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et au lendemain de sa réélection, consultation en série pour Emmanuel Macron.
Le président toujours à la lanterne où il a passé la soirée d'hier. Vincent Derosier, vous êtes devant cette résidence d'État à Versailles où Emmanuel Macron multiplie les coups de fil.
Absolument, des coups de fil à l'abri des regards dans un décor bucolique. Versailles, des arbres, le silence et le chant des petits oiseaux en prime. Alors, depuis ce matin, le président a déjà dit à peu près merci dans toutes les langues puisque les chefs d'État du monde entier l'appelle pour le féliciter. Et puis entre deux thank you ou gracias, c'est aussi l'après que prépare Emmanuel Macron dans sa résidence. D'après nos informations, il s'est entretenu ce matin avec Nicolas Sarkozy pour évoquer l'élection d'hier et les mois à venir. Hier soir, il avait déjà parlé une dizaine de minutes avec François Hollande pour tirer les enseignements politiques de ce scrutin. Le chef de l'État maintient aussi le contact avec les présidents des deux assemblées, Richard Ferrand et Gérard Larcher au Sénat. Et comme d'habitude, Emmanuel Macron s'entoure, appelle, consulte avant de décider probablement tout seul qui sera son Premier ministre.
Ouais, Vincent Derosier devant
le polyglotte,
la résidence, exactement, la résidence de la lanterne pour RTL. Marine Le Pen, elle, après la défaite, réunit les cadres du Rassemblement National depuis le début d'après-midi au QG du parti dans le 16e arrondissement de Paris, où vous êtes pour RTL, Marie Mollet, et où il est question principalement de la prochaine bataille, celle des législatives.
Oui, avec un objectif en tête, aller chercher un groupe à l'Assemblée, il faut 15 députés. C'est jouable, mais on ne va pas se mentir, ça va être compliqué, me disait un cadre tout à l'heure. Le RN vise les circonscriptions rurales, en particulier du Nord-Est, où Marine Le Pen a fait plus de 55% dans certains cas. Moins d'illusions, en revanche, dans le Sud-Est, où les LR tiennent encore les territoires, dixit un élu. Le parti a pour ambition de faire monter une nouvelle génération de députés. Les révélations de la campagne se vantent un cadre. Laure Lavalette, Jean-Philippe Tanguy, des noms encore inconnus du grand public. Quant à une alliance avec le parti d'Éric Zemmour, le RN a d'ores et déjà fermé la porte. Les petits merdeux autour de lui peuvent aller se brosser, se lâcher un cadre. Reconquête, qui a publié un communiqué ce soir pour demander une rencontre entre l'état-major du RN et Marion Maréchal ou Nicolas Bay. pas sûr que ceux qu'on surnomme les traîtres, ici au QG du RN, soient les meilleurs ambassadeurs pour mener les négociations.
Cette bataille des législatives qu'ont déjà lancé donc, hein, de nombreux représentants politiques, a commencé par Jean-Luc Mélenchon qui parlait dès hier de troisième tour.
Alors le mot d'ordre est lancé, mais comment est-il reçu par les électeurs? Marie-Bénédicte Allaire, vous vous êtes rendue à Trappes dans les Yvelines pour RTL, ville qui a massivement voté Mélenchon au premier tour, plus de 60%. L'enjeu de ces élections en juin prochain, est-ce qu'il est compris, intégré?
Oui, en tout cas chez les électeurs qui se sont déplacés aux deux tours de la présidentielle, et certains ont même une idée très précise de la date.
Au mois de juin, le 12 et le 19.
Employé dans une supérette, Nizou a voté Macron hier pour faire barrage à Marine Le Pen, mais c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon qu'il voudrait voir appliqué.
Par exemple, le fait, je vais citer comme ça son programme, le SMIC à 1400, je crois que c'est Mélenchon.
Et aux législatives, il compte bien mettre un bulletin d'un candidat du camp Mélenchon.
Je vais mobiliser pour que le président vive une cohabitation. Il faut qu'il y ait une forte mobilisation comme au premier tour en fait. Il faut que les personnes qui ont voté Mélenchon votent aux législatives et il faut qu'on surfe sur la vague en fait, tout simplement.
Maya a elle aussi voté Mélenchon au premier tour et Macron au second.
Je fais partie de ceux qui ont voté pour lui par dépit. Hein. Je pense que pour les législatives, c'est pas joué pour lui non plus. Donc je pense que la cohabitation, elle est possible. Et j'espère qu'elle va y avoir lieu justement pour que tout le monde puisse se retrouver justement.
Et ce que cette directrice d'un centre de loisirs souhaite avant tout, c'est plus de mesures pour préserver l'environnement.
Le reportage de Marie-Bénédicte Allaire à Trappes, terre mélenchoniste pour RTL.
Et en vue des législatives, cette déclaration qui donne du grain à moudre à l'opposition. Ce matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, n'a pas exclu le recours au 49-3 pour faire passer la réforme des retraites, sans vote du Parlement donc. Elle sortit aussitôt récupérée par les Insoumis, le Rassemblement National ou les Républicains pour ne pas donner, disent-ils, de majorité à La République En Marche à l'Assemblée en juin prochain.
Alors avant ce vote des 12 et 19 juin prochain, les enseignements déjà du scrutin d'hier avec une France plus que jamais divisée.
Oui, selon l'âge, les niveaux de revenus, les niveaux de diplômes, mais aussi le niveau d'accès aux services publics. Et vous l'avez constaté, Yannick Collin, à Sélestat et dans ses environs.
Et oui, première étape, Sélestat, ville de 19 000 habitants sous le château du Königsbourg, qui a placé Emmanuel Macron en tête avec 59% des voix. Marcel Bauer, le maire de la ville.
Tous les services sont présents, notre hôpital fonctionne bien, alors que dans les communes, dans les petites communes, ce ne soit pas tellement le cas. Alors on peut comprendre effectivement que des services publics s'éloignent de plus en plus, mais bon, les villes-centres comme Sélestat, il n'y a pas de raison de se plaindre.
En revanche, autour de Sélestat, effectivement, les villages ont placé Marine Le Pen en tête. Je reprends donc la voiture RTL direction Hohenheim, 1080 habitants à 10 km de là. Petit village sans problème, peu de chômage, mais où il faut forcément prendre sa voiture pour se déplacer. Marine Le Pen a fait 56%. Jacqueline Schunk est la maire du village. En dehors de l'école, il reste deux services publics.
Il y a quand même encore une agence postale. Et puis dans notre petite mairie, on fait tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'on n'a plus de transport. À part pour les scolaires.
Plus de bus, par exemple.
Les bus ne passent plus. Ça manque peut-être un petit peu, surtout pour les familles qui veulent aller à Sélestat.
Et avec la hausse du prix de l'essence, ces 10 km de distance peuvent changer beaucoup de choses en politique.
Voilà, ça change beaucoup de choses pour ce vote et ces résultats donc du second tour. Yannick Collin à Sélestat pour RTL. Elle n'avait pas passé la barre du premier tour. Valérie Pécresse, désormais personnellement endettée après la défaite de son parti, a relancé aujourd'hui son appel aux dons, indiquant avoir reçu 2 millions d'euros sur les 5 nécessaires.
Allez, petite pause dans ce journal et dans un instant, ce document RTL, le témoignage de sœur Marie-Claude. Elle s'est interposée hier lors de l'agression d'un prêtre dans une église de Nice, prêtre qui a été poignardé à une vingtaine de reprises. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. Et donc ce document RTL, le témoignage de sœur Marie-Claude, cette religieuse qui a tenté d'empêcher l'agression d'un prêtre. C'était hier matin dans une église à Nice.
Agression commise par un homme d'une trentaine d'années, victime de troubles psychiatriques. Il a expliqué après son interpellation qu'il voulait tuer Emmanuel Macron et s'était finalement rabattu sur une église. C'était là donc dans l'église Saint-Pierre d'Arène qu'il s'en est pris au père Christophe, lui assénant une vingtaine de coups de couteau.
Et c'est là que sœur Marie-Claude a tenté de s'interposer. Elle-même a été blessée. Elle a accepté de témoigner ce soir sur RTL. Bonsoir sœur Marie-Claude.
Bonsoir.
Est-ce que vous pouvez, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé avant l'office? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette agression?
Alors, c'est hier matin, donc à une grosse demi-heure avant l'office, nous étions avec le père Christophe à l'église en train de préparer la célébration. Moi, j'étais dans un local où se trouvent les cierges, donc, et puis au bout d'un moment, j'ai entendu un bruit anormal. Je suis sortie et contre la porte de l'église, d'entrée à l'église, alors à l'intérieur du sas, j'ai vu le père Christophe affalé et le garçon que j'avais déjà vu, mais sans plus, pas très équilibré, qui était près de lui. Donc je me suis approchée, je pensais que le père Christophe avait eu un malaise. Mais en réalité, non, j'ai vu ce garçon en train de lui asséner des coups de couteau dans les jambes à 4 ou 5 reprises. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait. Et je l'ai interpellé, donc, et là, il s'est retourné vers moi et il m'a dit, le début de la phrase, j'ai pas retenu, mais du style, si tu approches ou si tu fais quelque chose, la fin, c'était, je te tue, donc, avec le couteau à la main.
Et qu'est-ce que vous avez fait donc, à ce moment-là? Voilà.
Alors, il a levé le bras et moi, j'ai essayé de lui attraper le couteau, mais comme il était assez baraqué et moi un peu moins, j'ai pas réussi à le lui prendre totalement et il l'a retourné contre ma main, il m'a coupé la main.
Et ensuite, voilà. Il s'est enfui?
Alors non, il ne s'est pas enfui. Alors là, moi, j'ai un petit blanc dans le déroulé. Je suis sortie vers l'église pour essayer d'attraper quelqu'un, des personnes qui venaient là pour la messe. Et le garçon s'est arrêté. Je ne sais pas comment. Moi, je pense avec la grâce du Seigneur, voilà, parce qu'on la demande régulièrement. Donc, je pense qu'il y a eu une intervention surnaturelle qui l'a arrêté parce qu'il avait tout pour, à la fois pour me donner un coup de couteau à la carotide ou dans le cœur. Et pareil pour le père Christophe. Il ne l'a pas pris. Il s'est arrêté. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais voilà, donc il s'est arrêté. Et un moment après, quand j'ai eu appelé les secours, je suis revenue voir s'il n'agressait personne d'autre. Et il était contre la porte de la sacristie, comme hébété, le couteau à la main droite, les bras ballants, voilà, sans plus. Et il est resté comme ça jusqu'à ce que la police intervienne et le maîtrise.
Comment vous vous sentez aujourd'hui? Votre main, est-ce que ça va?
Ça va, j'ai le pouce dans le plâtre, j'ai un muscle sectionné qui se rétablira sans doute avec le temps, mais bon voilà. Mais sinon tout va bien pour moi, c'est pas un problème.
Est-ce que vous avez des nouvelles du père Christophe?
Oui, tout à fait. Lui, alors il est beaucoup plus handicapé parce qu'il lui a sectionné des doigts, des nerfs, enfin il sera très handicapé. Mais il est bien, voilà, il est bien soigné pour l'instant, voilà.
Vous nous disiez, vous aviez déjà vu l'agresseur dans le quartier?
Oui, on le connaissait, c'est un garçon qui passait de temps en temps. Alors, il connaissait a priori un peu le père Christophe. Moi, je ne connaissais même pas son nom, mais je le connaissais de vue. Il m'avait eu demandé si le père Christophe était là, voilà, sans plus, quoi.
Qui avait des problèmes psychiatriques, visiblement, cette
personne. Manifestement, oui. Oui, manifestement.
On note dans votre discours l'absence totale de haine ce soir, sans Marie-Claude.
Oui, bien sûr. Bon, d'abord, manifestement, c'est quelqu'un qui est mal. Donc, moi, c'est plus... Enfin, j'aime pas le mot pitié, mais enfin, c'est un peu ça. C'est de la compassion, disons, pour quelqu'un qui est mal. Et malheureusement, il y en a de plus en plus. On en voit de plus en plus qui tournent dans le quartier, partout. Des gens désemparés, déboussolés, et moi ça m'attriste beaucoup, c'est ça qui m'attriste, voilà.
Merci Sœur Marie-Claude d'avoir pris le temps ce soir de nous raconter cette agression ce soir sur RTL. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous, au revoir.
Retrouvez ce témoignage sur rtl.fr.
Allez, nous partons maintenant dans ce journal de RTL Soir à Évry, dans l'Essonne, avec l'ouverture aujourd'hui du procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge.
Oui, ce train qui déraille à son arrivée en gare, faisant 7 morts, c'était en juillet 2013, 8 ans après. La SNCF, SNCF Réseau, ainsi qu'un cheminot chargé de la maintenance sont jugés. Alice Moreno, vous êtes au tribunal d'Évry pour RTL, où les rescapés et les proches des victimes sont venus en nombre.
Oui, c'est impressionnant, de l'aveu même d'une toute jeune femme qui répond à l'appel des victimes. Elle était enfant à l'époque du drame. Elle ne sait pas si elle aura le courage de témoigner à l'audience. Prenez le temps de réfléchir, la rassure la présidente. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Les bancs des partis civils sont pleins à craquer. Les familles des 7 personnes mortes dans le déraillement sont là. Certaines fauchées sur le quai, d'autres passagères du Paris-Limoges. 184 partis civils, 25 témoins. Parmi eux, Guillaume Pépi, le président de la SNCF à l'époque du drame. On aurait aimé l'entendre dès demain matin, indique la présidente, mais il est à l'étranger. Il témoignera donc jeudi. Une victime blessée dans le déraillement réagit à son absence agacée. C'est la suite logique du traitement qu'on nous a infligé depuis le début, lâche-t-elle. Elle aurait aimé le voir sur le banc des prévenus, aux côtés de ce cheminot, un cadre de maintenance des voies de Brétigny. C'est lui qui a effectué le dernier contrôle avant la catastrophe. Lui qui est la seule personne physique à devoir répondre d'homicide et blessures involontaires.
Alice Moreno, au tribunal d'Evry dans l'Essonne pour RTL. Et puis cette information RTL ce soir, le policier qui a fait usage de son fusil d'assaut la nuit dernière à Paris lors d'un contrôle au niveau du Pont Neuf a été placé en garde à vue dans les locaux de la police des polices. Il avait été brièvement entendu ce matin en audition libre par les enquêteurs après avoir tiré sur une voiture qui semblait foncer sur une de ses collègues en tirant. Il avait tué trois occupants du véhicule. En Ukraine, le coup de pression des États-Unis pour continuer d'alimenter Kiev en matériel militaire. Avec les bons équipements, l'Ukraine peut gagner. C'est ce qu'a dit le chef du Pentagone, Lloyd Austin, au lendemain d'une visite sur place aux côtés du secrétaire d'État, Anthony Blinken.
La première chose pour gagner, c'est de croire que l'on peut gagner. Et les Ukrainiens sont convaincus qu'ils peuvent gagner. Nous le croyons aussi s'ils ont les bons équipements et de bons soutiens. Nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour que ça arrive. Nous voulons que l'Ukraine redevienne un pays souverain et démocratique, capable de protéger son territoire. Nous voulons que la Russie s'affaiblisse à tel point qu'elle ne puisse plus agir comme elle l'a fait en envahissant l'Ukraine. Franchement, la Russie a déjà perdu beaucoup de ses capacités militaires et beaucoup de ses soldats.
La Russie qui, malgré tout, continue ses bombardements. Au moins 5 morts aujourd'hui dans le centre-ouest du pays après des frappes sur des installations ferroviaires.
18h17, il est celui qui avait fait briller la France en jaune un 14 juillet, mais pas sûr cette année que l'on puisse compter sur les exploits de Julian Alaphilippe sur le Tour de France.
Et oui, puisque le double champion du monde a été victime d'une chute collective hier sur la course Liège-Bastogne-Liège, dont il avait pourtant fait un réel objectif dans sa saison, hein, Christian Olivier.
Oui, la classique qui ne lui a jamais souri et dont Julian Alaphilippe en faisait vraiment cette saison l'un de ses objectifs majeurs, comme il l'exprimait dimanche matin sur RTL.
C'est une course qui me correspond bien aussi, mais j'ai jamais gagné. C'est une course de prestige, une course difficile à gagner. Je pense qu'il y a quand même pas mal de coureurs dans le peloton qui rêvent de la gagner. J'en fais partie aussi, et voilà.
Dans une portion descendante annoncée dangereuse, 80 km/h, coup de frein, touchette entre plusieurs coureurs, dont Romain Bardet, le premier à se porter au secours de Julian Alaphilippe, immobile dans un fossé 3 mètres plus bas. Bardet tétanisé à l'arrivée devant les journalistes.
Je tombais de son côté avec lui, je l'ai vu 3 mètres en contrebas et il me dit je peux pas bouger. Et personne n'arrivait, ça a duré une éternité, j'avais vraiment peur. Non, c'était vraiment des scènes qu'on ne veut pas voir en vélo.
Julian Alaphilippe souffre d'une fracture de l'omoplate, de 2 côtes cassées et d'un hémopneumothorax, présence d'air et de sang entre les poumons et la paroi thoracique. C'est à surveiller de très très près. Laurent Jalabert, consultant RTL.
Si on le voit au départ du Tour, ce sera avec une préparation qui ne sera pas optimale, mais sa présence au Tour reste possible malgré tout.
Ce soir, Julian Alaphilippe reste en observation dans un centre médical du nord de la Belgique.
Et on lui souhaite en tout cas un très bon rétablissement. Oui. Merci Christian Olivier.
Dans le journal de Marion Calais. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain, donc de mieux en mieux, Louis.
Oui, parce qu'on a eu beaucoup de pluie encore aujourd'hui. Alors pas partout, mais dans le centre, par exemple, autour de la Franche-Comté, hein, plusieurs millimètres de pluie supplémentaires. Mais tout ça va disparaître durant la nuit pour laisser demain matin un temps plus sec. Alors peut-être quand même quelques gouttes de pluie entre la région Rhône-Alpes et l'Alsace, mais ailleurs du temps sec avec encore quelques brumes, brouillards, nuages ici ou là, mais tout ça devrait se dissiper au fil des heures pour laisser le soleil s'imposer facilement l'après-midi, très facilement même en bord de mer, près de la Manche, sur la face atlantique ou encore près de la Méditerranée. Ce sera parfois un peu plus compliqué dans le nord-est où il restera un tout petit risque d'averse. Côté température, ce sera un peu plus frais demain matin. On repassera sous les 10 degrés et puis l'après-midi comme aujourd'hui, 15 à 19 degrés dans la moitié nord, 19 à 23 dans le sud.
Merci Louis. Petite pause et puis ensuite RTL se projette déjà sur les 5 ans à venir. Quel quinquennat Avec qui? Avec quelle méthode? Est-ce que Emmanuel Macron a vraiment entendu les fractures du pays? Son ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, sera notre invité juste après ça. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h22, vous écoutez RTL et au lendemain donc de la réélection d'Emmanuel Macron, nous nous projetons ce soir. Quel quinquennat à venir, quel gouvernement, quelle nouvelle méthode? Est-ce que le président a entendu les fractures du pays? Est-ce qu'il redoute le combat des législatives? Beaucoup de questions, on va se les poser. On va les poser à notre invité ce soir, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Bonsoir Jean-Michel Blanquer.
Bonsoir Julien Cellier.
Chez Emmanuel Macron hier soir, comme chez beaucoup de ses soutiens aujourd'hui, on a senti la volonté d'éviter tout triomphalisme, pas de fête jusqu'au bout de la nuit sur le champ de Mars où vous étiez. C'était le message à faire passer, un message d'humilité, respect et bienveillance, disait Emmanuel Macron hier soir.
Oui, de toute façon, c'est ce qui venait spontanément à chacun, c'est-à-dire à la fois célébrer la victoire, puisque victoire il y a, mais simplement et sobrement, je pense que c'est le ton qui convient.
Emmanuel Macron, hier soir, c'est d'ailleurs adressé aux électeurs qui ont voté pour lui, alors non pas par adhésion, mais pour faire barrage à Marine Le Pen. « Votre vote m'oblige », dit-il, ce sont des mots forts, et il dit qu'il veut gouverner avec une méthode nouvelle. Concrètement, c'est quoi une nouvelle méthode? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment associer davantage les Français?
D'abord, l'expression « votre vote m'oblige » est bien choisie, parce qu'elle signifie qu'en effet, maintenant, il est le président de tous les Français, et que c'est normal, non seulement du fait des caractéristiques du scrutin qui vient d'avoir lieu, mais de façon générale, d'être un président qui cherche à rassembler les Français, à écouter même, évidemment, du côté des oppositions, ce qui peut être proposé. Ensuite, bien, la méthode, elle va se déployer selon les différents registres. Il y a, par exemple, dans le futur Parlement, la capacité à dialoguer avec les oppositions, à articuler des projets avec l'ensemble des députés. Et puis, il devrait y avoir une réforme institutionnelle. Ça fait partie du programme présidentiel. Ça signifie aussi une plus grande capacité à consulter. Et donc, peut-être que la Constitution évoluera dans ce sens.
Et pour autant, sur la réforme qui crispe, celle des retraites, on a entendu Bruno Le Maire ce matin, le ministre, dire que l'objectif devait rester 65 ans et expliquer qu'il ne souhaitait pas un 49-3, mais qu'il ne pouvait pas donner la garantie qu'il ne serait pas utilisé. Forcément, l'opposition s'est emparée de cette petite phrase en expliquant que c'était une drôle de façon d'entendre les craintes des Français sur ce sujet inflammable.
Non, mais je crois que c'est un faux débat. Quand vous réécoutez ce qu'il a dit, il n'a absolument pas dit qu'il fallait avoir recours au 49-3. Donc c'est typiquement le genre de surinterprétation que l'on fait. Il est très clair que la réforme des retraites, et le président a été très clair, mais Bruno Le Maire aussi l'a été après lui, sur le fait que c'est évidemment une vaste concertation qui doit caractériser l'amont de cette réforme, c'est évident.
Donc il n'y aura pas de passage en force?
Bien sûr que non, le président est très clair là-dessus, sur le fait que justement, dans la lignée de ce qui a été dit hier soir, mais Bruno Le Maire n'a pas dit autre chose, c'est ça qui est fantastique avec le monde que nous avons aujourd'hui d'informations immédiates, c'est qu'on cherche à faire une histoire à partir d'un segment de réponse à une journaliste.
De manière générale, sur cette question des retraites, mais sur d'autres, est-ce que le programme tel qu'il était écrit sur les professions de foi sera appliqué à la lettre, ou est-ce que Emmanuel Macron compte entendre les différences qui se sont exprimées dans le pays et est ouvert à des négociations?
Bien, évidemment, il a un programme et il a vocation à l'appliquer, mais ce programme, il est quand même fait aussi de choses qui sont susceptibles d'ajustement. Il y a une capacité d'adaptation. Tout n'est pas précisé jusqu'au moindre détail. Et il est donc normal qu'après les élections législatives, il puisse y avoir toute une série d'éléments qui seront pris en compte, y compris de propositions qui viennent des oppositions. Il ne faut pas caricaturer. On a été capable de le faire à certains moments au cours du précédent quinquennat. Il y a eu évidemment de l'écoute sur bien des sujets. Mais là, l'objectif, c'est de développer de nouvelles méthodes aussi pour aller plus loin dans l'écoute et la prise en compte des oppositions. L'objectif, il est aussi d'arriver à ce que nous soyons une démocratie apaisée. Célébrons le fait qu'hier, la démocratie a gagné, au sens où le suffrage s'est exprimé. Tous les pays ne peuvent pas en dire autant, et soyons heureux de vivre dans cette France républicaine, démocratique, où voilà, on a le droit d'avoir des différences, de les exprimer politiquement. Il y a un temps pour l'élection, il vient d'avoir lieu pour les présidentielles, il va avoir lieu bientôt pour les législatives, et puis ensuite un temps pour la mise en œuvre qui doit être quand même la plus consensuelle possible. Il faut rassembler les Français. Vous savez, le monde actuel, pas seulement en France, dans le monde entier, il y a une tendance à la radicalité, une tendance à l'extrémisme, une tendance parfois même à la violence verbale, voire physique. Tout ceci doit être combattu. On doit avoir une société aussi apaisée que possible. Et c'est ce à quoi aspirent tous les Français.
Vous avez parlé des législatives. 12 et 19 juin, dès 20h00 et une seconde hier, on a compris que la bataille avait déjà commencé. Troisième tour, disent déjà Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.
Non, Jean-Luc Mélenchon, il le disait même avant.
Le disait même avant, effectivement.
Il n'a pas attendu le
deuxième tour. Deux sondages montrent que entre la moitié et deux tiers des Français souhaitent une défaite d'Emmanuel Macron aux législatives. Est-ce que ça vous inquiète ?
Non, je crois que ce genre de sondage doit être payé avec des pincettes. Je pense qu'en général, les Français, après une élection présidentielle, souhaitent surtout donner une majorité au président élu. C'est quand même assez logique.
Donc vous êtes confiant ?
Toujours ce qui se passe. Confiant, ni confiant ni pas confiant. C'est-à-dire qu'il faut, là encore, comme nous l'avons fait pour les présidentielles, aborder les choses avec beaucoup d'humilité, d'attention, ni fatalisme, ni excès de confiance. Si vous voulez, il faut être sérieux. Il faut parler aux Français, il faut les écouter et que se dégage une majorité. Moi, j'ai confiance dans la sagesse populaire, dans la sagesse du peuple français et dans le fait qu'il sait donner, c'est toujours ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, il sait donner une majorité avec l'ampleur qui parfois semble presque peser au trébuchet, si je puis dire, nécessaire pour l'action. Donc, mais après, il faut évidemment une campagne, de nouveau une précision dans les programmes. Ça, c'est la démocratie et c'est justement une belle chose.
Comment les aborder, les législatives ? Parce que Emmanuel Macron, il y a 15 jours, a dit qu'il faut un grand mouvement politique d'unité et d'action. On a un petit peu de mal à comprendre ce que ça signifie. Est-ce que ça veut dire qu'on cherche à rallier les Républicains, des écolos, à recréer un nouveau parti, qu'En Marche va changer de nom ?
Non, ça veut dire une capacité à aller à ces élections législatives de manière unie de la part de tous ceux qui soutiennent le président de la République, selon une forme qui reste encore à préciser, mais c'est cette idée de ne pas arriver dispersé aux élections législatives, ce qui est bien normal.
Il y a un autre signe qui va être guetté dans les jours à venir, bien entendu, c'est le choix d'Emmanuel Macron pour Matignon. Quel Premier ministre, quelle Première ministre pour attaquer ce quinquennat ? Ce matin, le secrétaire d'État Clément Beaune évoquait la volonté du chef de l'État de nommer une femme. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette volonté ?
Il est certain qu'il y a un objectif de parité. D'ailleurs, le président de la République a pris des engagements pendant la campagne. Vous savez que l'égalité homme-femme, c'était déjà le thème dominant du premier quinquennat et ça va le rester dans le deuxième quinquennat et que ça s'illustre y compris dans l'exercice du pouvoir. Le président de la République, par exemple, a signé une charte qui s'appelle « Jamais sans elle » pour différents éléments de parité dans le système public. Par exemple, vous voyez, dans mon ministère, au ministère de l'Éducation nationale, on respecte déjà ça, cette charte, avec la moitié des recteurs qui sont des rectrices et une bonne partie des cadres qui sont de plus en plus des femmes dans notre système. Donc, il est évidemment, ça peut être une bonne chose si le Premier ministre est une femme, mais il y a aussi d'autres paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte.
Vous parlez de votre ministère, vous voulez rester ministre de l'Éducation, ministre de manière générale ?
Non, je veux servir mon pays, c'est au travers de ce que décidera le président de la République. Ça se résume vraiment à ça. Et ce qui sera décidé sera bien.
Vous en avez déjà discuté avec lui ?
Non, avant l'élection présidentielle, on ne parle pas de ça. On est concentré sur des objectifs. C'est un peu un 110 mètres haie, si vous voulez, une haie après l'autre. Et là, hier, on a franchi une haie importante.
Parce que vous êtes ministre de l'Éducation, mais aussi des sports.
Et aussi des sports, c'est vrai.
Merci Jean-Michel Blanquer d'avoir été notre invité ce soir sur RTL au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron. Petite pause, ensuite RTL Soir va se poursuivre. On évoquait à l'instant le choix du premier ou de la première ministre. Vous n'avez pas voulu nous donner davantage d'informations, mais Vincent Derosier, qui est toujours bien renseigné, va pouvoir nous parler des noms qui circulent juste après ça. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
Bonne fin de journée, RTL Soir, 18h31.
RTL Soir, avec Julien Sellier.
Et les trois infos à retenir en sortant du boulot, en rentrant à la maison, c'est avec Marion Calais.
Avec ce témoignage ce soir sur RTL, celui de sœur Marie-Claude, cette religieuse qui s'est interposée hier matin lors de l'agression d'un prêtre dans une église à Nice par un trentenaire, semble-t-il déséquilibré. Il a été arrêté, elle-même a été blessée. Et elle a raconté tout à l'heure à votre micro, Julien.
Moi, je saignais beaucoup, le père Christophe était par terre et le garçon
on s'est arrêté. Je ne sais pas comment. Moi, je pense avec la grâce du Seigneur, voilà, parce qu'on la demande régulièrement. Donc, je pense qu'il y a eu une intervention surnaturelle qui l'a arrêté parce qu'il avait tout pour, à la fois pour me donner un coup de couteau à la carotide ou dans le cœur. Et pareil pour le Père Christophe. Il ne l'a pas pris. Il s'est arrêté. Pourquoi ? Je n'en sais rien.
Sœur Marie-Claude qui témoigne ce soir sur RTL. Information RTL que l'on vous révélait il y a une demi-heure. Le policier qui a ouvert le feu la nuit dernière sur une voiture fonçant a priori sur une de ses collègues a été placé en garde à vue dans les locaux de la police des polices. Il s'agira de tenter de comprendre les circonstances de ces tirs qui ont tué deux des occupants du véhicule. Et puis au lendemain de sa réélection, les consultations d'Emmanuel Macron, toujours à la lanterne à Versailles. Le président qui a notamment parlé avec deux de ses prédécesseurs à l'Élysée, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen, elle, a réuni les cadres du Rassemblement National au QG de son parti pour discuter notamment des législatives.
Merci beaucoup Marion. Le temps pour demain, Louis, c'est mieux, c'est bien?
C'est mieux. Alors c'est vrai qu'on a déjà eu beaucoup de soleil dans le nord-ouest, encore dans le sud aujourd'hui, mais dans le centre on a eu de la pluie. Ben, ça ira mieux également demain. Alors le matin il restera des nuages, notamment du Poitou jusqu'au nord-est, mais au fil des heures, là aussi on retrouvera de belles éclaircies. Du coup en cours d'après-midi, grand soleil en bord de mer près de la Manche, de l'Atlantique ou encore sur les bords de la Méditerranée. Quelques nuages dans le centre, un peu plus menaçant peut-être dans le nord-est avec encore un risque d'averse. Les températures seront un peu plus frais demain matin. On sera entre 3 et 9 degrés, donc sous les 10 degrés. Et l'après-midi, 15 à 19 degrés dans la moitié nord. C'est à peu près comme aujourd'hui, 19 à 23 dans le sud.
Merci Louis.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Les dessous de l'actu. Les dessous ce soir de ce choix tant attendu. Le choix du premier ou de la première ministre. Qui Emmanuel Macron va-t-il nommer à Matignon? On va aller rejoindre notre envoyé spécial à la lanterne où le président réélu, vous l'avez compris, multiplie les coups de fil depuis ce matin. Rebonsoir Vincent Derosier.
Rebonsoir.
Alors on l'évoquait à l'instant avec notre invité Jean-Michel Blanquer. Ce matin, un secrétaire d'État expliquait qu'Emmanuel Macron souhaitait choisir une femme. Ça peut être une bonne chose, nous disait Jean-Michel Blanquer à l'instant. Est-ce que ce choix d'une femme est confirmé? Est-ce que c'est la tendance?
Alors, est-ce que c'est confirmé? Non. Est-ce que c'est une tendance forte? Oui. Un ministre confie à RTL que chef de l'État est très tenté de nommer une femme à Matignon et l'ira jusqu'au bout. Ça, on ne sait pas depuis 5 ans. Vous avez pris à connaître Emmanuel Macron et sa façon de décider. Il n'est pas du genre à étaler ses états d'âme, même devant ses plus proches collaborateurs. Ce qui est certain, c'est qu'une partie de son entourage fait pression et très fortement. Son équation est trop masculine, tacle même un stratège de la majorité, qui explique que le président a sous la main différents profils politiques, techniques et expérimentés.
Est-ce qu'il y a déjà des noms qui circulent, Vincent?
Oui, un surtout, une femme qui est déjà ministre, ça tombe bien, Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Elle est de gauche, elle est expérimentée et elle saura mener parfaitement la réforme des retraites, explique un fidèle du président. Un membre du gouvernement ajoute qu'elle n'est pas clivante et qu'elle ne fait pas peur aux électeurs de droite comme de gauche. Et ça, c'est un plus, forcément, avant des élections législatives qui s'annoncent. Emmanuel Macron a aussi des solutions sur sa droite. Certains plébiscitent Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, ou Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne.
Est-ce que Emmanuel Macron a déjà décidé si le futur locataire ou la future locataire de Matignon allait venir de la gauche, de l'écologie ou de la droite ?
Non, c'est un sacré casse-tête et le choix en dira beaucoup sur le message qu'il veut faire passer aux Français. À Figeac, vendredi dernier, Emmanuel Macron nous a confié qu'il n'avait pas encore décidé. Alors, on parlait de femmes, mais la liste des premiers ministrables masculins s'allonge d'heure en heure. Au gouvernement, Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin sont jugés les plus crédibles. Julien de Normandie aussi fait partie de la shortlist. Un fidèle parmi les fidèles qui pourrait rassurer Emmanuel Macron. Un membre du gouvernement lance aussi le nom de François Baroin. Ça c'est bien si Emmanuel Macron a envie de créer la surprise et de définitivement fracasser la droite. Enfin, si le président choisit d'envoyer un message fort pour le climat, il pourrait penser, selon plusieurs proches, à l'ancien ministre Pascal Canfin, passé par Europe Écologie Les Verts. Vous voyez, la liste est longue, mais à Matignon, il n'y a qu'une place.
Effectivement, il n'en restera qu'un. Les dessous d'un choix qui sera très scruté, très commenté, assurément. Merci beaucoup Vincent Derosier depuis la lanterne pour RTL. Petite pause et dans un instant, sur cette antenne, on va défaire le monde. Cyprien Signy, Céline Landreau, Laurent Tessier, nous ont rejoints dans les studios de RTL Soir. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Et on va défaire justement le résultat de cette élection présidentielle. Est-ce que Emmanuel Macron a été largement réélu ou très mal élu? Alors on entend tout et son contraire depuis ce matin et on va vous aider à vous faire une idée. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.